L'État paye la facture des navettes. Il a décidé de rembourser l'ensemble des dépenses liées à ce dispositif, mais aussi d'accompagner la province sud dans la mise en place de moyens supplémentaires. L'actualité institutionnelle avec un train de mesures votées par le Congrès pour sauver la CLR. Des mesures qui s'imposent, mais qui ne seront pas suffisantes selon les élus. À l'étranger, une attaque islamiste déjouée à Vienne. Un jeune radicalisé avait projeté un attentat suicide lors d'un concert de la chanteuse américaine Taylor Swift. En Espagne, un petit discours et puis s'en va. Carles Puigdemont, le leader indépendantiste catalan visé par un mandat d'arrêt, a prononcé un discours à Barcelone avant de prendre la poudre d'escampette. Le sport, une 14e médaille d'or dans l'escarcelle française. Elle vient du cyclisme sur piste. Benjamin Thomas a été exceptionnel sur l'Omnium. Une médaille en argent également signalée pour Lauriane Nolo en kite foil. En revanche, Bassam Aouem sort en quart de finale de l'escalade. Côté sport collectif, la France s'est qualifiée pour les finales des tournois de basket messieurs et de handball chez les femmes. La météo en Nouvelle-Calédonie maintenant avec un ciel relativement peu nuageux sur la Grande Terre, même si quelques nuages circulent sur la côte est pour ce matin. Les températures maximales remontent légèrement, se rapprochant des valeurs de saison, souvent comprises entre 23 et 26 degrés.
Bienvenue dans Info Matin pour tout savoir de l'actualité en Calédonie, en métropole et dans le monde. Bonjour Nicolas.
Bonjour Thierry, bonjour à tous.
Et à la une, l'actualité sur le territoire.
Oui, avec l'État qui prend donc en charge les navettes et les barges maritimes qui permettent aux habitants du Mont d'Or Sud de rallier Nouméa. En raison de la situation unique du Mont d'Or, l'État annonce qu'il a décidé de rembourser l'ensemble des dépenses liées à la mise en place de ce dispositif. Et il va aussi accompagner la province sud dans la mise en place de moyens supplémentaires, Isabelle Pelletier.
Depuis le 12 mai dernier, la province sud et la commune du Mont d'Or ont mis en place des navettes maritimes ainsi qu'un système de barges qui permettent le déplacement des usagers et le fret des marchandises entre le Mont d'Or et Nouméa. Un dispositif exceptionnel mis en place en raison du blocage de la RP1 à hauteur de Saint-Louis. Mais un dispositif qui a un coût, 200 millions ont déjà été dépensés. Cette prise en charge des navettes et des barges maritimes par l'État est une bonne nouvelle pour la présidente de la province sud, Sonia Baquès, qui en avait fait la demande au chef de l'État.
C'est une bonne chose que l'État assume financièrement cette liberté de circulation. Ça va s'élever pour la province 200 millions déjà dépensés et de l'ordre de 140 millions par mois supplémentaires rien que pour les navettes. Il faut ajouter à ça les barges qui sont financées par la mairie du Mont d'Or et nous travaillons sur le montant que coûterait un ferry qui permettrait de déplacer facilement des véhicules et des personnes. Projet que nous avions déjà envisagé il y a quelques années mais qui devient plus urgent, qui demandera évidemment des aménagements, des wharfs, mais qui semble important et pour lequel l'État nous dira s'il nous accompagne une fois que les études seront terminées.
L'État va également accompagner la province sud dans la mise en place de moyens supplémentaires et peut-être donc d'un ferry, mais ce ne sont que des solutions transitoires pour répondre à l'urgence, tient à préciser Sonia Baquès.
La vraie solution, c'est évidemment de permettre aux Mondoriens de passer. On ne fait que gérer l'urgence en leur permettant simplement, dans un service qui est quand même extrêmement dégradé pour eux, parce que passer par la mer sans voiture, avec des navettes où on a, même en ayant mobilisé un maximum de bateaux, des temps d'attente importants, c'est quand même pas une solution agréable pour les Mondoriens. On espère toujours que la route va être libérée le plus vite possible. Si j'ai bien compris, l'État a mis un verrou dans l'espoir d'interpeller les personnes qui sont activement recherchées parce qu'elles ont été violentes, soit avec des gendarmes, soit avec des personnes qui sont passées sur la route. Donc, en attendant, on essaye de trouver des solutions et on essaye aussi de trouver des solutions un peu sur le long terme. C'est-à-dire qu'on sait très bien que cette question de la situation de Saint-Louis, elle se reproduit malheureusement régulièrement et on ne peut pas découvrir le problème à chaque fois. L'État est compétent en matière de liberté de circulation. Donc là, il assume sa responsabilité et je le remercie sur cet épisode. Mais il faut être prêt, le cas échéant, à d'autres épisodes ou à cet épisode qui dure encore un peu avec des solutions qui sont plus acceptables pour les Mondoriens, pour leur permettre de travailler, de se soigner, d'aller à l'école. Donc c'est évidemment les ferries sur le moyen terme et sur le long terme, le viaduc est la seule solution qui permettra réellement au Mont d'Or d'être désenclavé.
Un projet de viaduc auquel se rallie d'ailleurs également le maire du Mont d'Or, Eddy Le Courrieux.
Et dans son communiqué, l'État précise qu'un important dispositif de sécurisation est mis en place sur la commune du Mont d'Or. La route jouxtant la tribu de Saint-Louis est actuellement fermée au vu du risque important de troubles à l'ordre public et d'exactions. Et pour permettre la rouverture de la RP1 dans les meilleurs délais, les forces de sécurité accentuent sur cette zone leur travail d'ordre public et de police judiciaire. Hier, vous le disiez, en marge du conseil municipal, le maire du Mont d'Or, Eddy Le Courrieux, a donné des précisions sur ce dispositif. Et il affirme qu'il ne faut pas laisser se banaliser la situation des 12 000 personnes bloquées depuis près de 13 semaines maintenant.
Tous les jours, on peut dire, on pense au Mont d'Or Sud, c'est difficile pour le Mont d'Or Sud, comment ils font les pauvres, etc., etc. Et je sais que c'est sincère, mais en même temps, moi, je veux pas que ça devienne juste un potin ou ça devienne un sujet qui se banalise où on parle parce qu'il faut dire quelque chose. Moi, je voudrais vraiment que chacun prenne conscience que c'est invivable, c'est invivable. Alors, la plupart des gens arrivent à se mouvoir, arrivent à se nourrir, arrivent à se soigner, etc. Mais moi, où j'ai peur, c'est qu'on oublie des gens qui sont isolé, et puis quand plus tard, ben, on verra que ça aura été un drame. Moi, j'en appelle à ceux de la tribu, celles de la tribu, qui souhaitent qu'on avance, et ben, nous dire qu'est-ce qu'on pourrait faire sans aller à demander la venue de T1 ou le retrait du gel ou pas, quelque chose de sensé qui puisse aujourd'hui nous permettre de commencer à ébaucher une sortie de ce malheur.
Et dit Le Courrier qui dénonce et condamne bien sûr les actions de la CCAT, mais qui veut s'attacher à régler le problème et à trouver des solutions pour ses administrés, dont il constate tous les jours la détresse. L'actualité institutionnelle maintenant, avec le projet d'acte 2 des mesures d'urgence en faveur de la caisse locale de retraite, adopté à l'unanimité au Congrès hier, Isabelle Pelletier.
Il prévoit un certain nombre de dispositions provisoires contestées pour certaines par les syndicats, globalement pas satisfaisantes pour de nombreux élus, mais nécessaires au regard de l'urgence. Si le déficit conjoncturel du régime avait pu être réduit significativement grâce à une première série de mesures adoptées l'année dernière, un autre déficit conjoncturel, celui-là, est apparu, et c'est le 13 mai qui a changé la donne, a dit en séance Vaïmoua Mouliava, membre du gouvernement en charge de la fonction publique.
Le 13 mai qui a carbonisé le tissu économique, qui fait que la fiscalité ne rentre plus. Et donc, cette situation inédite que nous vivons depuis le 13 mai augmente ce déficit conjoncturel. La Nouvelle-Calédonie, faute de fiscalité qui rentre, ne peut s'acquitter de ses charges. C'est dans cette situation que nous nous retrouvons aujourd'hui. Et donc c'est dans ce contexte que je me présente devant vous avec une nouvelle série de mesures permettant non pas de sauver la caisse locale de retraite, mais de repousser un mur.
Les mesures adoptées hier prévoient une nouvelle augmentation de 1% des cotisations des actifs et une nouvelle minoration des pensions de 3% après une première de 6%. L'une des mesures prévues par le gouvernement a toutefois été supprimée par les élus, celle qui consistait à prévoir que si la trésorerie de la CLR ne permettait pas de payer la totalité des pensions à la fin du mois, elle serait payée au prorata de la trésorerie disponible. Et c'est donc sans enthousiasme que les élus ont adopté ces mesures. Pour Sonia Bacquès et l'intergroupe Les Loyalistes, les choses ont été faites à l'envers.
Ce qui est fait n'importe quoi, c'est-à-dire qu'en fait on vient chercher l'argent chez les retraités, alors qu'en fait ce sont les employeurs, certains employeurs qui ne payent pas leurs cotisations, et notamment les employeurs hospitaliers, parce qu'il n'y a pas eu de réforme du RUAM. Donc concrètement, parce qu'il n'y a pas eu de réforme du RUAM, les établissements hospitaliers ne payent pas leurs cotisations, il y a un défaut de trésorerie de la CLR, et qui ont fait payer les retraités. Donc c'est juste insupportable, la majorité indépendantiste a la possibilité de passer une réforme du RUAM. Quand ils le souhaitent, ils ne le font pas et au final, ce sont les retraités qui payent.
On va vous dire que vous aviez demandé une deuxième lecture de cette réforme.
Oui, on a demandé une deuxième lecture parce que la réforme du RUAM qui a été proposée, elle tapait sur, encore une fois sur ceux, les travailleurs, etc. et ceux qui sont en difficulté. Donc encore une fois, il y a une commission spéciale, une énième commission spéciale qui a été mise en place par le Congrès. Je l'ai dit hier en commission spéciale nickel, aucune commission spéciale au Congrès n'a jamais abouti à rien. Les indépendantistes ont voulu prendre la responsabilité au gouvernement. Ils font passer des réformes, ils ont la majorité, ils n'ont pas besoin de nous.
En complément des mesures adoptées hier, une partie de l'avance de 12 milliards de francs CFP consentis à la Nouvelle-Calédonie par l'État sera affectée au soutien de la CLR, soit 600 millions.
Des mesures d'urgence en faveur de la CLR dont nous reparlerons en détail ce matin sur Radio Rythme Bleu. C'est en effet Dominique Frontier, le président du syndicat des retraités, qui sera tout à l'heure notre invité du matin à 7h30. Et puis le Conseil économique, social et environnemental était hier dans la salle du Conseil municipal de Nouméa. Le CESE rendait un avis sur un projet de délibération relative au système électrique de la Nouvelle-Calédonie. Son objectif est notamment la révision des modalités de fixation des tarifs publics de vente de l'électricité. Selon le gouvernement, ces tarifs doivent être fixés de façon à garantir l'équilibre financier prévisionnel du système. Et sur ce point, le CESE a insisté pour que soit prise en compte la situation actuelle des clients, qu'ils soient particuliers ou professionnels, durement impactés par la crise insurrectionnelle. Le Conseil économique, social et environnemental qui a rendu en séance un avis favorable à la majorité sur ce projet de délibération.
Radio Rythme Bleu, opinion.
Et c'est l'heure d'opinion, votre rendez-vous SMS sur Radio Rythme Bleu. Voici notre question du jour. pour désenclaver le Mont-d'Or-Sud à moyen et long terme. Êtes-vous favorable à la construction d'un viaduc ou préférez-vous la mise en place d'un ferry? Si vous êtes favorable à un viaduc, vous tapez 1. Si vous préférez le ferry, vous tapez 2. Et vous envoyez votre réponse par SMS au 3146. La réponse à notre question d'hier maintenant, 99% des auditeurs de RRB qui se sont exprimés par SMS estiment que Michael Forest doit démissionner du gouvernement. Ils ne sont que 1% à être d'un avis contraire. Merci pour votre participation et rendez-vous demain, samedi, pour la réponse à notre question du jour. Un rendez-vous maintenant sur notre antenne. C'est Harold Martin, signataire de l'accord de Nouméa, qui sera ce midi l'invité d'Elisabeth Noir dans le magazine Transparence. Il sera interrogé sur le bilan qu'il dresse de la situation près de 3 mois après le début de l'insurrection et sur son analyse de la situation. L'accord de Nouméa est-il en cause dans le déclenchement des émeutes et quelles sont les solutions qu'il préconise pour sortir de la crise ? Harold Martin sera également interrogé sur les différentes déclarations et prises de position politique des dernières semaines. Harold Martin, invité de Transparence, est donc à suivre à partir de midi, juste après notre édition de la mi-journée. Et puis enfin, en bref, cette information avec l'ouverture de l'hôtel Wadrabec à Lifou qui est reportée. Une marche à blanc devait permettre de roder l'établissement. Elle était prévue en avril-mai, mais les événements obligent à reporter cette marche à blanc qui pourrait donc être reprogrammée au mois de septembre. La province, la Sodil et le groupe Intercontinental sont actuellement en discussion pour revoir ce calendrier. Il est 6h passé de 42 minutes. Vous écoutez Radio Rythme Bleu, la suite de l'actualité. Ce sera notamment l'actualité à l'étranger avec notamment ce projet d'attentat à Vienne.
Toute l'info en trois lettres, RRB. Roulez dès maintenant pour 1 995 000 francs TTC et commencez à payer dans 3 mois, c'est possible. Jusqu'au 25 août, profitez de notre offre exceptionnelle sur la Peugeot 208 Active à partir de seulement 1 995 000 francs TTC. Design, motorisation, connectivité, la Peugeot 208 a tout pour vous plaire. Rendez-vous dès maintenant au showroom Peugeot au village automobile PK4 Nouméa. Offre valable jusqu'au 25 août 2024 en partenariat avec Socalfi. Un crédit vous engagé doit être remboursé. Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager. Plus d'informations et conditions en concession ou sur Peugeot.fr. Construisons notre pays, économisons l'énergie.
Bonjour.
RRB toujours à vos côtés. Depuis le début des émeutes qui secouent la Nouvelle-Calédonie, les équipes de Radio Rythme Bleu se sont mobilisées pour vous informer, vous accompagner et pour faire vivre votre antenne.
Malgré l'insécurité, les tensions et les difficultés de déplacement, nous nous sommes engagés pour répondre à votre confiance et à votre fidélité.
Demain, comme aujourd'hui, comme hier, RRB sera toujours à vos côtés.
RRB Matin, le journal, Nicolas Legrand.
Et la menace terroriste contre les concerts de Taylor Swift qui était bien sérieuse. Les 3 concerts prévus à Vienne ont été annulés de peur de voir des milliers de Swifties piégés par une attaque islamiste. La police autrichienne a déjoué l'attaque en arrêtant les 2 principaux suspects. Leur projet était donc concret et planifié. Tiffaine Dubuard pour Europe 1.
Un principal suspect, un jeune Autrichien de 19 ans, originaire de Macédoine du Nord. Il s'était récemment rapproché de l'État islamique à qui il avait prêté allégeance. Chez lui, les policiers ont saisi des substances chimiques et découvert, je cite, une focalisation sur les concerts de la star américaine. Selon le directeur de la sécurité de l'État et du renseignement autrichien, il aurait confirmé en garde à vue son projet d'attentat suicide.
Il a fait savoir qu'il voulait commettre un attentat en utilisant des explosifs et des armes blanches. Nous avons également saisi ses armes et il a envisagé les 2 types d'armes. Son objectif était soit aujourd'hui, soit demain, lors du concert, de se tuer et de tuer un grand nombre de personnes.
Autre suspect interpellé, un mineur de 17 ans qui aurait aidé à la planification de l'attentat. Il était employé depuis peu par une entreprise sous-traitante qui devait fournir des services au stade Ernst Happel, lieu des concerts de Taylor Swift. La tragédie a donc été évitée de justesse. C'est un partenaire étranger, vraisemblablement les États-Unis, qui a mis les services de police autrichiens sur la piste de ces 2 hommes. Habituellement très sûrs, l'Autriche avait déjà été la cible d'un terroriste islamiste en 2020. La fusillade avait fait 4 morts et 23 blessés.
Et plus de 170 000 fans devaient assister au concert de la star américaine à Vienne. L'arrestation cette nuit pour nous de l'imam de Pessac en Gironde, Abdourahmane Ridouane, accusé d'apologie du terrorisme et soupçonné d'avoir partagé des publications antisémites sur les réseaux sociaux. Malgré la demande de régularisation du tribunal administratif, le ministère de l'Intérieur a pris un arrêté pour expulser le religieux vers le Niger. Et puis une surprise à Barcelone, Carles Puigdemont a remis le pied en Catalogne et ce, après 7 années d'exil et le référendum interdit sur l'indépendance. Toutes les polices d'Espagne sont à ses trousses, mais l'ancien président de la région a tenu un discours sans être inquiété, Quelques mots sur l'Arc de Triomphe, Pâque de suite à l'EDA.
C'est une première à Barcelone. Depuis 2017, Carl Puigdemont enfin est revenu à Barcelone pour prononcer un discours face à plusieurs milliers de sympathisants. Alors le leader indépendantiste l'avait annoncé sur ses réseaux sociaux. Aujourd'hui, jeudi, il reviendrait en Catalogne pour assister à la session d'investiture du prochain président catalan. Fort logiquement, c'est donc au Parlement que la police l'attendait pour l'arrêter. Mais Carl Puigdemont a défié les autorités. Il s'est littéralement volatilisé après son discours. Alors il a emprunté une sortie cachée qui était derrière la scène, il a grimpé dans une voiture qui est partie à contresens dans les rues de Barcelone à toute allure, semant la police. Les mêmes forces de l'ordre, tout de suite, ont déployé des contrôles aux sorties de Barcelone, ainsi qu'à la frontière franco-espagnole, qui ont d'ailleurs causé des kilomètres de bouchons toute la journée. L'aéroport également a été sur surveillance, mais c'est un fait, Carl Puigdemont reste introuvable. Par ailleurs, un policier catalan a été arrêté pour sa possible complicité dans cette évasion rocambolesque. D'autres fonctionnaires pourraient également être impliqués dans les jours à venir.
Le récit de notre partenaire d'Europe 1, l'entourage de Carles Puigdemont a par la suite démenti tout pacte avec la police catalane. Il est 6h47, vous écoutez Radio Rythme Bleu, la suite de l'actualité dans la région mais aussi en Nouvelle-Calédonie. Ce sera juste après la pub.
RRB 6h-8h, Nicolas Legrand.
L'Université de la Nouvelle-Calédonie vous propose une formation courte pour mieux comprendre et gérer les conflits interculturels. D'une durée de 12 heures, sur le campus universitaire de Nouville, les sessions de formation auront lieu en juillet et en août. Augmentez vos compétences en communication interculturelle. Inscrivez-vous en ligne sur unc.nc.
Université de la Nouvelle-Calédonie, bâtir, transmettre, rayonner.
Vous rêvez d'une salle de bain moderne ? DCSM vous accueille dans son showroom dédié à l'univers de la salle de bain. Robinetterie, receveur, baignoire, pardouche, WC, meubles de salle de bain.
Venez aménager votre future salle de bain, 5 route de la Baie des Dames à Ducos, 27 74 20 ou sur Facebook.
RRB, pour être au cœur de l'actualité.
La suite d'Info Matin, on retrouve Nicolas Legrand.
L'actualité dans la région avec les ministres des Affaires étrangères des pays membres du Forum des îles du Pacifique qui sont en ce moment en réunion aux îles Fidji. Ils préparent le 53e sommet annuel de l'institution régionale qui se tiendra au Tonga. Ce sera à la fin du mois et c'est la correspondance ce matin de Jean-Pierre Zajac.
La ministre australienne des Affaires étrangères, Penny Wong, est arrivée hier aux îles Fidji dans le cadre de son 5e voyage officiel dans l'archipel depuis sa prise de fonction. D'assister à la réunion des chefs régionaux de la diplomatie constitue une opportunité d'échanger des idées et de travailler ensemble façon pacifique, a-t-elle dit. La réunion de Suva a également pour but de discuter des réponses à apporter à nos défis communs, notamment le changement climatique, la sécurité régionale et la croissance économique, a-t-elle ajouté. L'ambassadrice de France pour le Pacifique, Véronique Roger-Lacan, assistera également à cette réunion, de même que le vice-premier ministre et ministre kiwi des Affaires étrangères, Winston Peters. À Sydney, Jean-Pierre Zajac, RRB.
Info matin, il est 6h48.
Et on retourne donc en Nouvelle-Calédonie, redécouvrir le patrimoine de Nouméa et l'un de ses bâtiments emblématiques. Chaque jeudi, à midi, la ville de Nouméa organise des visites guidées de l'immeuble de la France australe. Elles permettent de découvrir cet ancien bâtiment, son histoire, son patrimoine architectural et culturel exceptionnel. Des visites qui durent une vingtaine de minutes et qui étaient organisées hier pour la deuxième fois ambiance.
Je connaissais l'ancien bâtiment et j'avoue que ce qui a été fait est tout à fait remarquable. C'est une excellente réhabilitation et en plus on peut effectivement redécouvrir l'histoire de ce bâtiment intimement lié à l'histoire de la Calédonie par elle-même.
J'ai découvert déjà à quoi il servait avant et surtout par quoi il est passé. Et quand tu sais qu'il est passé par un incendie, il a été abandonné, on a vu des photos, ça ressemblait presque plus à rien. Et de voir qu'aujourd'hui c'est un très beau bâtiment comme ça, ça donne de l'espoir pour ce qui se passe aussi. Aujourd'hui, tout est un peu dans le même état que le bâtiment avant, mais si on se projette, il y a toujours de belles choses à voir après.
J'ai su que c'était l'ancien consulat américain, là. Donc je voulais avoir un peu plus d'infos sur cette période-là.
Qu'est-ce qui vous a intéressé dans cette visite ?
L'histoire du bâtiment. On a souvent que les murs extérieurs, mais on ne sait pas ce qu'il y avait à l'intérieur, comment ça se passait. Le défilement, c'était d'abord un hôtel, ensuite on nous apprend que c'était un journal. C'est ça qui est intéressant, de voir comment les bâtiments ont vécu.
Et il n'y aura pas de visite de la France australe la semaine prochaine, puisque ce sera le 15 août. Rendez-vous donc le jeudi 22 août. L'entrée est gratuite, mais il faut s'inscrire car les visites sont limitées à 20 personnes. Renseignements à l'accueil de la France australe, 11 rue de la Somme, ou alors au 24 49 29, le 24 49 29. Il est 6h51, on va marquer une dernière pause dans ce journal avant de voir toute l'actualité sportive. Une actualité sportive évidemment marquée ce matin par les Jeux Olympiques avec une très belle médaille d'or en cyclisme sur piste.
RRB, pour être au cœur de l'actualité. Vous avez besoin de conseils pour faire travailler votre épargne, payer moins d'impôts, préparer votre retraite? Nous sommes là pour vous guider. Avec Caplif, développez votre patrimoine pour construire votre avenir. Contactez Caplif au 28 30 00, RIAS 170 052, ORIAS 13 103.
Alors, 3 ans de garantie, plus 3 ans d'entretien, plus 200 000 francs d'avantage client, ça nous fait...
Pas la peine de chercher, Minia fait le calcul pour vous. 3 ans de garantie, plus 3 ans d'entretien, plus 200 000 francs d'avantage, au total, ça vous donne toutes les bonnes raisons de vous offrir une Mini.
Alors, Mini 3 portes pour le fun, Mini 5 portes pour l'espace ou Mini Countryman pour l'aventure? À vous de choisir la Mini de votre vie en profitant de ses offres limitées avant le 31 août au showroom Mini chez Prestige Motors au 6e kilomètre. Offre valable dans la limite des stocks disponibles et jusqu'au 30 août 2024. Entretien simple 3 ans au 36 000 km, premier terme échu. Garantie 3 ans au 200 000 km, premier terme échu. Construisons notre pays, économisons l'énergie.
RRB, première radio d'information. RRB, une radio d'opinion.
Excellent début de journée, la suite de votre journal avec le sport et direction Paris.
Les pages spéciales des Jeux Olympiques sur RRB avec la Banque de Nouvelle-Calédonie, partenaire premium de Paris 2024.
Et le classement des médailles qui est dominé ce matin par la Chine, auteur donc d'un important comeback. 28 médailles d'or, 27 pour les États-Unis et 18 pour l'Australie qui complètent ce podium. La France est juste au pied du podium, quatrième, avec 53 médailles côté tricolore, dont 14 en or. La dernière médaille du métal le plus précieux est venue du cyclisme sur piste après l'exploit de Benjamin Thomas. Au terme d'une course tout simplement exceptionnelle, le Français décroche l'or sur l'Omnium. Il monte sur la plus haute marche du podium au terme de cette course, vraiment au point avec plein de rebondissements, puisqu'il a chuté alors qu'il était en tête. Il s'est repris pour remporter la première médaille de l'histoire du cyclisme sur piste français sur l'Omnium. Écoutez sa réaction.
Honnêtement, je crois qu'aujourd'hui, les planètes étaient alignées, il pouvait rien m'arriver. Honnêtement, à la fin, j'avais plus mal au bras à cause de la blessure qu'aux jambes. Enfin, c'est public. Voilà, j'ai tout connu sur la piste. Des défaites, des victoires. Et c'est pour ça, pour aujourd'hui. C'est pour aujourd'hui. J'y croyais pas, je partais pour faire un podium. Je voulais pas me mettre à la pression de la médaille d'or parce que c'était le meilleur moyen d'échouer. Et voilà, après la course, on s'est retrouvé dans un duel à 3. Et voilà, ce qui a fait la différence, c'est vraiment le public parce que pendant les... Enfin, ça a éteint les autres et moi j'étais démultiplié, j'étais en feu quoi. Ça fait du bien, on est chez nous.
Donc la réaction de Benjamin Thomas, médaille d'or sur l'Omnium en cyclisme sur piste. En sport individuel, hier soir, on suivait tout particulièrement l'escalade de vitesse, puisque Bassam Aouem était aligné sur cette phase finale. Il met malheureusement un terme à sa carrière à 39 ans. Le directeur technique de la Ligue d'escalade de Nouvelle-Calédonie a été éliminé des Jeux Olympiques en quart de finale. Il s'est incliné face à l'Indonésien Vedric Leonardo, premier champion olympique de la vitesse. Et puis la France a pris l'argent en kite foil, ça s'est passé à Marseille. Lauriane Nolo n'a pas réussi à battre la Britannique Eleanor Aldridge après une chute lors de la deuxième régate de la finale. C'était la 52e médaille de la délégation française qui a été remportée donc par Lauriane Nolo, qui aurait aimé ramener un autre métal à la maison.
C'est quand même l'argent, mais moi je n'étais pas venue ici pour prendre l'argent. Donc c'est vrai que je suis un peu déçue. C'est beaucoup d'émotions parce que je sais que c'est mes parents, ils sont hyper contents. Après moi j'aurais préféré leur ramener forcément la médaille d'or, mais je pense que ce soit la médaille d'or ou la médaille en chocolat ou la 10e place, ils auraient été super contents. Donc ça fait chaud au cœur de voir quand même que tous les Français sont hyper contents. Parce que moi j'arrivais pas à leur rendre la joie qu'ils avaient, mais presque ça a quand même réussi à me donner le sourire.
Et la France qui repartira par ailleurs à coup sûr avec une médaille en basket. Trois ans après Tokyo, les Bleus se sont de nouveau qualifiés pour une finale olympique en disposant de l'Allemagne 73 à 69. Après avoir sorti le Canada en quart de finale, les Bleus ont donc réalisé un nouvel exploit face aux champions du monde. La deuxième demi-finale oppose en ce moment même les États-Unis à la Serbie et c'est la Serbie qui mène à la mi-temps 54 à 43. La finale aura lieu dans la nuit de samedi à dimanche. Médaille acquise aussi en handball chez les femmes, le rêve d'un doublé se poursuit. Les tricolores se sont qualifiés la nuit dernière pour la finale en battant la Suède 31 à 28 après prolongation puisque les Bleus étaient dominés, mais elles ont su arracher cette prolongation et renverser le match pour valider leur ticket pour la finale. Leur adversaire sera soit la Norvège, soit le Danemark puisque l'autre demi-finale a débuté à 6h30 entre ces deux nations et il y a pour le moment 6 partout. La France qui se battra pour la médaille de bronze en tennis de table, lourdement mais logiquement sortie des demi-finales par les Chinois, ultra favoris. Une défaite hier soir 3-7 à 0, écoutez Alexis Lebrun.
Ça va être exceptionnel, c'est vrai qu'on en rêve depuis un long moment, donc demain on va vivre un moment exceptionnel et je pense qu'on a tous envie de faire un grand match et d'aller chercher cette médaille. Et ouais, j'ai hâte d'être demain. Ça va être notre dernier match ici, donc on va en profiter un maximum et je pense que ouais, ça va nous aider.
Et le match pour la troisième place, ce sera donc ce soir à 19h contre le Japon. Et puis côté belle performance, même si ça ne devrait pas suffire pour aller chercher une médaille, en athlétisme, Agathe Guillemot a battu son record de France sur le 1500 mètres. Elle termine sixième des demi. Et pour la première fois de l'histoire des JO, il y aura donc une Française qui disputera cette finale sur cette distance.
C'était les pages spéciales des Jeux Olympiques sur RRB avec la Banque de Nouvelle-Calédonie, partenaire premium de Paris 2024.
Et allez, vous le savez, tous les jours, on joue sur Radio Rythme Bleu.
De mémoire de jeu avec les stations chez les Pacifiques.
Avec votre carte fidélité, toujours des remises sur le carburant et plein d'autres avantages.
De mémoire de jeu pour gagner chaque jour et c'est valable un bon carburant de 5000 francs grâce à notre partenaire. Chaque jour dans le journal du matin et celui du midi, on vous pose une question sur vraiment l'histoire des Jeux Olympiques et puis sur ces sportifs qui en ont écrit la légende. Vous envoyez votre réponse par SMS jusqu'à 17h qui est l'heure du tirage au sort. Et dans le journal du soir, on vous donne la bonne réponse et le nom du gagnant. Tout ça se passe au 31-46. En équitation, quelle personnalité politique a participé à la victoire de l'équipe de France de saut d'obstacle aux Jeux Olympiques de Montréal ? C'était en 1976. S'il s'agit de Jacques Chaban-Delmas, vous tapez JO1. S'il s'agit de Gérard Larcher, vous envoyez JO2. Et s'il s'agit de Laurent Fabius, vous envoyez JO3. Vous envoyez évidemment votre réponse par SMS au 31-46 jusqu'à 17h, qui est l'heure du tirage au sort parmi les bonnes réponses. Et le gagnant remporte, je vous le rappelle, un bon d'essence de 5000 francs offert par notre partenaire. Bonne chance à tous.
Dans vos stations Shell et Pacifique, gagnez 3 Toyota Hilux, 730 cartes de carburant à 15 000 francs et profitez tous les jours de nos offres fidélité et des bons plans en magasin. Rendez-vous vite dans vos stations Shell et Pacifique et n'oubliez pas votre carte de fidélité.
Et on termine ce journal avec les prévisions du temps.
La météo avec la 7. 6 magasins sur l'ensemble du territoire pour vous accompagner dans tous vos projets. La 7, construire, rénover, aménager.
Et la météo, c'est avec vous Thierry.
Oui Nicolas, ce matin, le ciel sera relativement peu nuageux sur la Grande Terre, même si quelques nuages circuleront encore sur la côte Est, la pointe Sud et l'île des Pins. Les Loyautés conserveront plus de nuages avec quelques gouttes donc pour ce matin. Le vent orienté aujourd'hui à l'Est, il s'établira entre 10 et 15 nœuds, voire plus de 15 nœuds sur le Nord-Est. Il sera plus faible sur une grande partie de la côte Ouest. Cet après-midi, les nuages s'organiseront sur la chaîne et donneront quelques averses. Ils glisseront progressivement vers la pointe Nord et le Nord-Ouest en fin de journée. La pointe Sud et les ne seront pas épargnés et conserveront quelques averses. Le vent orienté pour cet après-midi à l'est-sud-est se renforcera autour des 15 nœuds. Les températures maximales, elles remontent légèrement. Elles se rapprochent des valeurs de saison, souvent comprises entre 23 et 26 degrés.
Merci beaucoup Thierry. Merci à tous d'avoir écouté ce journal.